que nous cherche sans doute. Un dernier coup, messieurs, et mettons-nous en route. La Titan, les grès attristent nos adieux. Comme vous, pour longtemps, je l'ai quitté ces lieux. J'y laisse Marguerite. Et vous veillez sur elle, ma mère n'est plus là.
Et nous étions au deuxième acte de Faust de Gounod avec les voix d'Adrian Ehreud, de Michaela Zellinger et d'Hans-Peter Kammerer avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne, toujours dirigé par Bertrand Billy. Et ici, on retrouve le fruit de son travail au service de la musique de George Gershwin. Gershwin s'est inspiré de son environnement lorsqu'il écrit sa célèbre Rhapsody in Blue. Pour le rythme du début, il s'inspire de son voyage en train pour Boston. Quant au thème central, il l'imagine lors d'une fête pendant laquelle il s'était mis à improviser au piano. Thank you. Rhapsody in Blue de George Gershwin, c'est l'œuvre qui a rendu Gershwin riche et célèbre. Et nous venons d'écouter la version du pianiste Pascal Roger avec l'orchestre symphonique de la radio de Vienne, dirigé par Bertrand de Billy. Et une passion pour Francis Poulenc anime actuellement le chef d'orchestre Bertrand de Billy, qui apprécie la personnalité écorchée vive de ce compositeur typiquement français, avec beaucoup d'humour, de gravité, d'autodérision et de courage. Et puis on sait que Poulenc n'a jamais oublié ceux qui lui ont voulu du bien. Sa mère, par exemple, à qui il a dédié son dialogue des Carmélites. Je le cite: à la mémoire de ma mère qui m'a révélé la musique.
Thank you.
Et nous étions au troisième acte du dialogue des Carmélites de Francis Poulenc avec les voix de Michel Britt, Magdalena Anna Hoffmann et Jürgen Zahrer et avec l'orchestre symphonique de la radio de Vienne dirigé par Bertrand de Billy. Merci de votre fidélité aux stars du classique et je remercie Swad Boukorsa et Cécile Bonnet-Descloustres.
C'était Star du classique d'Aurélie Moreau. À 7h, vous retrouverez Jean-Baptiste Urbain et toute l'équipe de Musique Matin. Mais tout de suite, les grands entretiens. Bon réveil sur France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Katia Bunyatishvili. Je suis née en Géorgie en 1987. Je suis pianiste, musicienne, artiste, une femme, un être humain.
Après le récit de ses jeunes années, protégées par ses parents dans une Géorgie en plein chaos, retour aujourd'hui sur les professeurs qui ont marqué le parcours de la pianiste franco-géorgienne.
Chaque professeur, parce qu'il y avait certains qui étaient mieux que les autres musicalement, mais humainement j'étais vraiment très attachée. Et surtout j'ai compris que j'avais une sens de fidélité, intégrité. Ma mère, elle a compris ça parce que première professeur à l'école où j'étais encore dans le banlieue, cette dame... Il m'a dit ensuite, quand j'avais 8 ans, à mes parents qu'il fallait aller dans cette école musicale qui n'était pas dans le banlieue, qui était dans le centre des villes. J'ai passé l'examen, je suis rentrée à l'école et ensuite elle est allée, cette professeure, pour dire qu'elle ne voulait plus être mon professeur malgré qu'elle pouvait aller à cette école comme professeur parce qu'elle voulait me donner la chance d'avoir d'autres professeurs, peut-être qu'elle pensait qu'elle a fini ce qu'elle avait à m'apprendre. Et quand mes parents ils m'ont dit ça, quand ma mère elle m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce que je comprenais pas comment je pouvais la laisser aussi comme l'élève. Il y avait une relation qui s'est créée entre professeur et élève et je pensais d'aller avec un autre professeur, c'était une forme de la quitter ou de faire mal ou quelque chose et c'était douloureux, ça je me rappelle très bien. Et donc chaque professeur comptait. Mais les plus grands professeurs qui ont vraiment compté pour moi, c'était Meisenberg à Vienne.
Oui, ça Oleg c'est plus Meisenberg, tard. Oui.
Et Gizi Amilejibi au conservatoire de Géorgie.
Oui.
Mais avant conservatoire, déjà j'ai commencé à avoir les cours quand j'avais 15 ans. Grand maître qui est malheureusement décédé déjà.
Oui.
Oui.
Donc finalement, chaque professeur a apporté évidemment une forme de couleur et aussi, oui. J'imagine, votre jeu à chaque fois qui
on
s'est étoffé, qui s'est libéré. On s'attache au professeur comme...
Oui, alors aujourd'hui, peut-être j'aurais différentes façons de voir les choses, aussi avec des enfants dans le sens musical, mais chacun avait... On n'apprend pas seulement de musique qui nous parle, mais aussi de personnalités qu'ils sont, leur énergie autour. On apprend énormément de choses, leur façon de parler, leur façon de communiquer, leur façon de utiliser leurs mains ou définir la musique en mots. On apprend énormément de choses dans la vie avec des différents professeurs et même avec des professeurs moins bons, on peut apprendre quelque chose qu'on peut transmettre en quelque chose d'intéressant, je pense.
Et vous aimiez tout de suite travailler?
J'aime bien travailler quand c'était quelque chose d'intéressant artistiquement, des nuances qui étaient intéressantes pour moi, découvrir des nouveaux morceaux, de rentrer dans l'ambiance de compositeur, tout ça j'adorais. Il y avait autre partie qui était plutôt technique, mais pas seulement technique dans le sens virtuosité, mais il y a aussi d'autres techniques à faire certaines choses, construire une phrase ou apprendre le texte, apprendre à se sentir à l'aise dans certains passages, etc., ou était plus ennuyeux comme processus, mais j'ai trouvé un certain rythme de méditation que quand je répétais certains passages plusieurs fois, parce qu'on me disait il faut faire comme ça, en le répétant, j'ai trouvé une certaine méditation où mon cerveau se libérait de ces passages même, ça devenait quelque part automatique, mais pas dans le mauvais sens, ça prenait comme si ça devenait mon corps en fait, ce que je faisais. Et pendant cette méditation, je pouvais rajouter mon fantaisie, imaginer d'autres choses. dans cette perpétuum mobile que je faisais de même phrasé, etc., j'essayais de prendre ça comme un certain rythme et imaginer des choses, soit une histoire, soit un moment de vie, soit lire en même temps. Je faisais ça, c'est-à-dire je cachais. Pour ça, ma mère, je n'osais pas dire parce que je savais que ça ne se faisait pas. Quand on travaillait, il fallait se concentrer sur une chose, mais comme les partitions étaient grandes et longues, on pouvait cacher, imaginer une grande partition. Une page était cachée à l'ongle et l'autre page de livre, qui était plus courte et plus petite, je le lisais. Et quand j'ai fini, c'est de l'autre côté, je mettais. Et si quelqu'un rentrait, comme une page était cachée sous les partitions, je pouvais vite glisser l'autre partie sans que quelqu'un remarque. Et donc, j'avais une certaine envie même d'être avec le piano et de faire d'autres choses aussi. Ça montrait que, en fait, c'était partie de ma vie. Le piano, ça pouvait durer des heures. Mais aussi, je pouvais faire d'autres choses qui n'étaient pas...
Une dissociation possible.
Oui, mais en même temps, c'était quelque chose quand même lié parce que c'était mon imagination que j'ai travaillé, donc ce qui est important aussi dans la musique. Donc, ce n'était pas quelque chose que... J'avais pas mauvaise conscience que je faisais mal à la musique, vous comprenez ce que je veux dire? J'avais pas cette mauvaise conscience, seulement c'était difficile à expliquer aux autres. Et je voyais pas la nécessité puisque j'étais, comme je vous dis, j'étais un peu introverte.
Et c'était votre jardin secret aussi?
Exactement, c'était mon jardin secret, on peut dire ça.
Quand on a 8-10 ans, on sent que le piano, bon, ben, clairement, est le centre de votre vie, la musique. Donc, vous l'avez dit, vous êtes déjà déterminée, en fait, à une musicienne. Et dans ces cas-là, est-ce que la petite fille que l'on est, elle a envie aussi, ou elle a besoin d'avoir devant elle une femme, ou pas une femme d'ailleurs, mais qui est sur le devant de la scène, qui s'exprime d'une façon qui la touche, et une manière comme ça de aussi de s'identifier peut-être, de se donner du courage peut-être, que parfois on manque de feu sacré.
Absolument, des inspirations, c'était très important pour moi. D'abord, ça a commencé avec les pianistes comme Horowitz, un des derniers concerts à Moscou. Il y avait une vidéo de ça, je trouvais ça juste génial. Richter, Gould. Mais ensuite, j'ai découvert Martha Argerich. Et ça a vraiment, en tant que personne, un être humain, une femme, que j'étais une petite fille, mais quelque chose, ça a changé parce que voir une femme comme ça, qui était belle et forte, on avait l'impression que cette idée qu'elle était mieux que 10 hommes dans ce qu'elle faisait, ou plus que 10 d'hommes, ça faisait... Il y avait comme une sorte de mouvement féministe qu'elle n'avait même pas conscience, je pense, elle-même. Mais ça a certainement créé comme une sorte de mouvement féministe chez les jeunes filles de l'époque. Voir ses beaux cheveux comme ça, toute naturelle, un peu sauvage, mais en même temps, on sentait une certaine intégrité envers la musique. C'était quelque chose de très inspirant à l'époque et j'étais vraiment fan de Martha Argerich. Il y avait aussi Cecilia Bartoli qui m'a inspirée énormément. Cette vivacité qu'elle avait sur scène, et liberté, et une femme vraiment douée qui avait une imagination et faisait des choses fascinantes, on peut dire. C'était vraiment quelque chose qui m'a, quand j'ai vu une des concerts en vidéo, comment elle chante, ses mimiques, ses gestes, sa voix, tout en fait, et la musique baroque en plus, c'était quelque chose de très inspirant. Maria Callas, qui était une grande inspiration aussi sur le niveau humain, je le trouvais très énigmatique, intéressante et fatale. Tout ce qui était fatal, vous voyez, à cet âge-là, ça nous attire. Et c'était... Donc, beaucoup de femmes, mais aussi dans le cinéma, il y avait des actrices, Meryl Streep et d'autres en France aussi, les films de Kieślowski, j'adorais. Donc, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de femmes. Bien sûr, la femme peut réveiller quelque chose parce qu'on peut un petit peu... Imaginez qu'on a cette liberté, cette infini, qu'il y a toutes ces femmes qui sont si inspirantes et nous aussi on peut faire quelque chose qui nous appartient à nous et on a envie de partager ça. Donc oui, je suis reconnaissante à toutes ces femmes, mais pas seulement des hommes aussi.
Oui, je pensais aussi en vous écoutant à Jacqueline Dupré qui aussi peut être une source d'inspiration.
Absolument, ça c'était plus tard, mais je la trouve, c'est une génie, je pense. C'est la musique, cette femme, et la musique pure. Il n'y a rien que la musique dans ce qu'elle fait.
Et chez toutes ces femmes, ce qu'on voit aussi là, quand je pense aux musiciennes, c'est aussi un corps qui est musique à chaque fois.
Tout à fait.
Que ce soit chez Dupré, chez Cecilia Bartoli,
très différent chacun à sa manière.
Chez Martha Argerich, chez Maria Callas, c'est un corps. Sur justement votre rapport au corps, le corps et le piano, vous nous avez dit que c'était avec un grand naturel, une forme de prolongation de votre être. Que ce piano. Aujourd'hui, on vous connaît jouant d'une façon très expressive, assez souvent les yeux fermés d'ailleurs, très voilà, dans votre piano avec un corps qui joue et qui chante. Est-ce que ça a toujours été ? Est-ce que quand vous étiez plus jeune, il y avait déjà cette expression-là ou bien petit à petit vous avez trouvé votre propre langage, je veux dire, comment on trouve son langage aussi ?
Je pense que tout ce qui est position de son corps par rapport à l'instrument, c'est aussi le professeur qui nous montre qu'est-ce qu'il faut faire à certains âges. Ça, c'est bien. Certains disent qu'il faut avoir plus contact, d'autres qui sont plus distants. Mais moi, quand j'écoutais plutôt les pianistes, j'adorais les pianistes du XXe siècle. Ils étaient tous très... comment dire, très élégante, très droite,
très tenue.
Assez tenue, voilà, comme ça. Et j'aimais ces côtés un petit peu retenus comme ça. Et moi-même, c'est la façon que j'étais toujours très droite, peut-être aujourd'hui aussi, mais en tout cas, j'étais très droite et tout se passait au bout des doigts, mais il n'y avait pas vraiment mouvement physique ou body language à part que le body language qui était très droite et tout se passait à travers les sons et le bout des doigts sans trop bouger ou essayer de ne pas trop exprimer ce qu'on voulait dire avec le corps mais avec le son. Et ensuite avec Oleg Meisenberg à Vienne, il m'a dit il était dans le jury de concours en Géorgie quand j'ai joué, avant que je devienne son élève. Et d'ailleurs, il était pas très gentil envers moi, dans le sens qu'il ne m'a pas vraiment voté comme j'aurais voulu, je pense, puisque je n'ai pas gagné le concours. Mais il m'a proposé d'étudier avec lui à Vienne, en tout cas. Mais il m'a dit que quand il m'a vue sur scène, ça lui a un petit peu énervé parce qu'il pensait que j'étais prétentieux et très fière et un peu sûr de soi. Alors, c'était pas du tout le cas, en fait. Mais la façon dont j'étais assise, il avait l'impression que je suis un petit peu... Je regarde tout le monde de haut. Mais en fait, non, c'était ma façon d'être assise au piano. Et ensuite, il m'a dit que tu n'es pas du tout comme ça dans la réalité. Mais il m'a dit qu'il y a trop de distance entre l'instrument et toi. Il faut se sentir plus avec le corps que nous faisons. Et ça dépend. Il m'a dit quand c'est la sonorité distante et tu aimerais que ça sente de loin... Dans ces cas, tu es distante aussi, mais s'il y a une sonorité qui exprime une certaine rage ou une certaine tragédie ou quelque chose qui est plus expressif, il faut aider avec le corps. Il m'a dit ça. Et ça, je crois, libérait peut-être mon corps quelque part de sentir plus proche de l'instrument et sentir que ce n'est pas seulement le bout de doigt, mais il y a plus que ça. Et depuis, c'est vrai que... Après, ça doit devenir organique. Soit l'un ou l'autre, on doit sentir que c'est à nous. Mais effectivement, ça a déclenché quelque chose de différentes façons de voir les choses. Et...
France Musique, les grands entretiens de Katia Bougnatichvili.
Alors, on a entendu comme ça, ça et là, quelques noms de grands professeurs. En 2004, vous allez rentrer à l'École centrale de musique de Tbilissi, puis au Conservatoire d'État de Tbilissi, et vous allez étudier avec un grand maître, Tengiz Amirejibi, Gizi. Un homme né en 1927, mort en 2013, qui a été un grand professeur, je crois, pour vous. C'était un grand chopinien. Quelle est cette étape que vous allez vivre avec lui? Qu'est-ce que lui va vous apporter dans la construction de votre personnalité, dans la construction de l'interprète que vous êtes devenu? Qu'est-ce qu'il représente?
Alors en 2004, effectivement, j'y vais au conservatoire où il est mon professeur. Mais déjà avant, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à avoir des cours avec lui et connaître cet univers qui est inoubliable et unique. Quelqu'un qui avait beauté dans la musique, mais aussi un être humain vraiment qui ne voyait jamais du mal chez les êtres humains et essayait toujours de comprendre la jeunesse, la personne de son âge, de sa génération, qui avait ce sens de m'apprendre tout ce qui est l'orchestre au piano, celui qui m'a appris, comment entendre les instruments en jouant le piano, comment on peut entendre clarinette, flûte, tutti, les instruments à cordes, percussions. Il avait cette richesse de sonorité et façon, même quand il chantait, de presque imiter les instruments et faire sentir la symphonie au piano. Il avait une phrasée unique, très chopinien, un peu style Rubinstein, qui est une sonorité très noble, très doux, mais en même temps quelque chose qui a de la profondeur. Et il avait cette générosité d'âme en disant, avant le concert, tu as appris tout ça, mais maintenant oublie tout et fais ce que tu veux sur scène. Et cette liberté sur scène ensuite, c'était nous. Nous les artistes, nous les interprètes, et c'était à nous de jouer. Donc ça, c'était vraiment une expérience unique, et je suis reconnaissante à la vie d'avoir rencontré cette personne.
Est-ce que vous vous souvenez d'œuvres précisément que vous auriez travaillé avec lui, et qui aujourd'hui, quand elles viennent peut-être ça et là dans vos programmes, vous rappellent encore le travail que vous avez eu avec lui?
Exactement, c'est le cas. Et c'est rare parce qu'on oublie les choses, on oublie les détails. Par exemple, Appassionata, c'est pas forcément, on a parlé de Chopin, etc., mais Appassionata, et c'est là la symphonie, de sentir la symphonie dans une sonate, parce que Beethoven, le piano, ce n'est plus le piano, c'est l'orchestre. Et la dramaturgie, qu'il donnait l'importance à construire une vraie dramaturgie, et que chaque, il n'y avait pas une vide, même le silence avait l'importance dans la dramaturgie. Je crois que ce qui me rappelle le plus, c'est la Passionata, je pense.
Lui, c'était un élève d'Igoumenov.
Oui.
Est-ce que vous avez l'impression que de parler de l'école russe, ça fait sens ou pas?
Si, en général, il y avait des magnifiques professeurs à l'époque. Il y avait bien évidemment une école, mais surtout des individus qui étaient très différents l'un de l'autre. Gizi, il avait quelque chose de très différent de l'école russe. Il n'était pas très, comment dire, aussi costaud, si on peut dire, et aussi musclé dans son jeu. Ça dépend, il y avait aussi des nuances différentes chez les musiciens russes, mais malgré l'école qu'il a appris, il avait quelque chose vraiment à lui. Et si vous comparez mon jeu avec, par exemple, son jeu, c'est très différent quelque part, mais on peut sentir peut-être la phrasée qui est... Il donnait beaucoup d'importance à la phrasée, et il avait raison.
Parce que vous l'avez phrasée, entendu en concert?
Oui, beaucoup.
Ouais, parce que ça, c'est quelque chose aussi d'entendre son professeur.
Ouais. Oui. Et c'est pour ça qu'elle me disait avant, aussi quand je revenais en Géorgie, je le voyais toujours. Et je jouais des fois pour lui, et, parce que j'étais étudiante déjà à Vienne, mais quand je rentrais en Géorgie, je voulais quand même jouer pour lui. Et il me disait, chaque fois il me disait, tu oublies maintenant, maintenant c'est toi, tu oublies tout ce que je t'ai dit. C'était beau, oui.
De 2003, vous allez avoir le prix spécial du concours Horowitz. Et puis 2005, le deuxième prix du concours de piano de Tbilissi. 2008, concours Rubinstein à Tel Aviv, troisième prix. Vous avez passé assez peu de concours.
Mais surtout, ce qui est il faut remarquer, c'est que je n'ai jamais gagné le concours, en fait. C'est ça qu'on remarque dans vos commentaires.
Ah, vous avez parlé de...
Je n'aime pas les concours.
Et vous n'aimiez pas ça.
Je refuse. On me demande d'être dans le jury des concours. J'ai dit non. Parce que déjà, je n'aime pas juger les artistes comme ça et partager les prix, etc. Après, ça existe, c'est une institution, les concours, et je respecte, mais c'est pas, j'aimerais que les jeunes ils sachent que, et qu'ils savent que je ne veux pas les juger comme ça et de donner des prix ou classifier. Ou... C'est très subjectif, donc pourquoi faire ça? Si on est artiste, si on a quelque chose d'unique à dire, c'est magnifique, et on est certainement différent de l'autre, donc... Ça suffit. Mais oui, je sais pas. La fin de concours, c'est toujours, ça allait toujours dans une tendance que je vais gagner le concours. Et vers la fin, j'étais toujours une candidate qui devait gagner.
Toujours en finale.
Et toujours au final, comme si je cherchais moi-même un problème pour ne pas être comme il faut. Je sais pas. Peut-être j'avais peur de la fin ou je sais pas. C'est quelque chose, ça doit être lié avec ressenti de la mort ou je sais pas. Il y a quelque chose qu'à la fin, j'aime pas. Je faisais plus la compétition, en fait, à la fin.
En tout cas, c'est à l'occasion donc d'un de ces concours que vous allez faire la rencontre d'Oleg Meisenberg qui va donc vous prendre comme élève. Vous allez avoir une bourse pour aller étudier à Vienne.
Oui.
Alors, comment c'est d'arriver à Vienne ? Est-ce que tout d'un coup, vous qui êtes une lectrice, vous qui êtes gourmande de plein de choses, de vous retrouver dans cette grande ville de Vienne?
Oui, et là j'ai commencé à vivre, j'ai voulu vivre énormément. Bon, on a compris que la vie n'est pas comme c'est dans les livres. D'ailleurs, les livres ne sont pas toujours très joyeux, mais en général... Oui, j'étais un petit peu comme une personnage d'un livre, mais la vie n'avait rien à voir avec ça. Mais je vivais de cette manière-là et je voulais être indépendante, vivre et de voir et de ressentir. Et c'était le moment de ça, Vienne, en fait. C'était des nouvelles expériences humaines et aussi beaucoup de musique. Et je pense que quelque part, mes vraies interprétations, en tout cas, d'être sûre de soi et... vraiment créer ses propres interprétations, ça a commencé à cette époque-là. Parce que Meisenberg, il est très individualiste aussi, heureusement. J'ai beaucoup appris, on a déjà parlé par rapport au corps. Mmh. Et aussi, Meisenberg, il avait une fantaisie, il a toujours, mais je parle dans le passé, pendant que j'étais son étudiant, une fantaisie incroyable. Vous pouvez dire quelque chose sur compositeur, raconter quelque chose sur le compositeur, je ne savais même pas si c'était vraiment les faits de sa biographie ou s'il imaginait, mais il n'expliquait pas simplement il faut jouer comme ça. Il disait Brahms à la fin de sa vie, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire, mais c'est beau, c'est drôle en fait. Il a dit à la fin de sa vie, il a demandé une bière. Et ils n'ont pas pu amener, parce qu'ils n'avaient pas, ils ont amené le vin rouge. Il a bu, il a fini le verre, il a dit « le vin rouge est bien aussi ». Et des choses comme ça. Et il racontait des choses qui étaient... Je ne sais pas, c'est possible que ça soit vrai, mais c'était un écrivain en fait. C'était un écrivain qui mélangeait des choses drôles et tragiques, humaines. C'est comme ça qu'il nous parlait. Et d'après ça, par rapport à ça, on imaginait quoi ? On imaginait la fin de sa vie, on imaginait l'envie et la passion qu'on peut avoir, soif de quelque chose, pas forcément de boire, mais quelque chose, soif, dernière soif avant de mourir. Et ça devenait tout de suite passionnel de jouer sa musique et de ressentir l'envie de vivre qui est exprimée dans le soif et peut-être dans un verre de vin ou de l'eau ou d'autres choses. Et ces genres de choses qu'il pouvait faire vibrer en fait. Et ça, c'était énorme parce qu'on était tous passionnés de vivre et d'entendre des histoires et de faire vibrer la musique qu'on jouait aussi nous-mêmes. Donc c'était cette période-là, c'était magnifique.
Thank you.
C'est sur le clavier Stücke numéro 2, opus 118 de Brahms par Katia Bouniatichvili que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec la pianiste franco-géorgienne. Une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
Les aventures d'Octave et Mélo. Une collection de podcasts France Musique à découvrir pour petites oreilles à partir de 3 ans.
Octave et Mélo, nos amis, voisins et musiciens, partent à l'aventure. À la mer, en ville, à la ferme ou à la montagne, ils en font des découvertes. Et la musique est toujours là pour les accompagner.
Les aventures d'Octave et Mélo, un podcast original France Musique d'Adèle Moll, à écouter sur le site et l'application Radio France.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Bonjour.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble pour 2 heures de réveil en musique et nous sommes le mercredi 18 décembre 2024. Dans notre éphéméride musicale aujourd'hui, 18 décembre 1798, c'est la naissance à Strasbourg d'un grand nom de la musique. Il a été facteur de piano, il a fondé aussi une salle qui porte son nom, mais il est aussi compositeur, c'est Camille Pleyel. Voici un nocturne interprété par Bart Van Oort.